Credo. Une exploration des fondamentaux de la foi chrétienne avec Monseigneur Battu, évêque auxiliaire de Toulouse.
La situation au IVe siècle et la doctrine d'Arius. Nous avons achevé notre réflexion précédente avec saint Irénée, qui écrit à la fin du second siècle. Nous revenons aujourd'hui un peu plus d'un siècle plus tard, à l'aube du IVe siècle, lorsque se déchaîne contre l'Église la grande persécution de Dioclétien dont nous avons déjà parlé. Lorsque Dioclétien abdique en 305, son successeur Galère poursuit la même politique, mais au moment de mourir, il en reconnaît l'échec et il promulgue en 311 un édit de tolérance dans lequel, tout en déplorant l'entêtement des chrétiens, il leur accorde la liberté de culte. Mal appliquée à ses débuts, cette tolérance finit par s'imposer devant une situation politique de plus en plus compliquée, puisque vers 310, on ne compte pas moins de 7 empereurs concurrents. L'un de ces 7 empereurs s'appelle Constantin, proclamé en 306. Il est le fils de l'éphémère empereur Constance Chlore, ainsi appelé parce qu'il était pâle comme de l'eau de Javel. Constantin est païen par son père, mais sa mère est une fervente chrétienne, c'est la célèbre sainte Hélène, qui partira en Terre Sainte à la recherche des lieux saints. Le paganisme de Constantin est donc ouvert et tolérant. Constantin va méthodiquement éliminer ses rivaux. La bataille la plus décisive étant celle du pont Milvius en 312 contre Maxence. Et si l'on en croit l'historien Lactance, Constantin aurait vu, peu avant la bataille, se dessiner dans le ciel le chrisme, c'est-à-dire les deux premières lettres du nom du Christ. Et ces deux lettres étaient accompagnées de la phrase « Par ce signe, tu vaincras ». La conversion de Constantin semble débuter vers cette époque, même s'il ne sera baptisé que sur son lit de mort. Elle se manifestera par une attitude de plus en plus favorable aux chrétiens. On le voit par exemple avec l'apparition des premiers symboles chrétiens sur les pièces de monnaie, tandis que les symboles païens disparaissent complètement une dizaine d'années plus tard. Les lieux de culte chrétiens se multiplient un peu partout. Et grâce à sainte Hélène, on construit à Rome les basiliques du Latran et de Saint-Pierre, ainsi que des basiliques en Terre Sainte. Mais surtout, Constantin fait élever ses enfants dans la religion chrétienne. La période toute nouvelle qui s'ouvre représente donc un des changements les plus considérables de toute l'histoire de l'Europe. On l'appelle la paix de l'Église. Mais cette période nouvelle ne sera pas de tout repos. En effet, à peine sortie des persécutions, l'Église commence à se déchirer dans de violents débats théologiques alors qu'elle ne dispose pas encore des moyens institutionnels nécessaires pour les régler. Elle devra donc inventer ses moyens au fur et à mesure, et le plus important d'entre eux sera le Concile œcuménique, une réunion de tous les évêques, ou du moins d'une proportion significative d'évêques, pour trancher les questions litigieuses. L'adjectif œcuménique vient d'un mot grec qui désigne l'ensemble des terres habitées, correspondant en pratique à l'époque à l'Empire romain. Une première alerte grave s'était produite en Afrique du Nord avec un schisme qui avait profondément divisé l'Église. Comme l'écrit un historien, l'Afrique chrétienne aura usé ses forces dans cette aventure. Nous constatons non sans douleur combien son expansion missionnaire en fut stoppée. Mais cette première escarmouche théologique reste malgré tout limitée à un territoire. Il en ira tout autrement de la grande hérésie du IVe siècle, dont les conséquences s'étendront à tout l'Empire, l'hérésie d'Arius ou arianisme. L'arianisme est un avatar des débats sur le monothéisme chrétien. Des contradicteurs, juifs en particulier, accusaient les chrétiens d'être de faux monothéistes et d'avoir fait de Jésus un second dieu. Grand péché aux yeux des Juifs. Cette critique sera reprise 3 siècles plus tard par l'islam, qui reproche à ceux qu'il appelle les associateurs d'associer d'autres dieux au Dieu unique et qui vise sûrement sans les nommer les chrétiens. Des théologiens chrétiens, soucieux de désarmer ce genre de critique, avaient trouvé une parade. Ils s'étaient dit « Pour montrer que les trois qui sont Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ne font qu'un, eh bien, nous allons dire qu'ils ne sont distincts qu'en apparence, de notre seul point de vue à nous. Le Dieu unique s'est d'abord manifesté à nous dans l'Ancien Testament comme Père, puis dans le Nouveau Testament comme Fils, et finalement comme Esprit Saint, mais cela ne correspond à rien en Dieu. C'est seulement un procédé pédagogique que Dieu a utilisé pour s'adapter à nous. Alors il n'est pas difficile de voir que si on raisonne ainsi en croyant sauver la foi chrétienne, en réalité on la fait disparaître, car notre foi est trinitaire. Dans cette perspective, la distinction entre Père, Fils et Esprit ne correspond plus qu'à des masques ou à des manières d'apparaître du Dieu unique. Et c'est en référence à ces modes d'apparaître que cette hérésie, car c'en est une, est restée dans l'histoire sous le nom de modalisme. Transportons-nous maintenant en Égypte entre 310 et 320. Il y a là un prêtre très savant et très zélé dont le nom est Arius. Il exerce son ministère dans le quartier du port d'Alexandrie, qui est une des plus grandes villes de l'Empire romain. Arius est très soucieux de montrer que la foi chrétienne est vraiment monothéiste, sans tomber dans l'erreur des modalistes qui confondent les personnes. Et pour ce faire, il va chercher une définition de Dieu qui dissipe tout équivoque grâce à des distinctions claires. Et il croit la trouver en disant « Dieu, c'est celui de qui tout provient et qui lui-même ne provient de personne ». En termes techniques, il l'appelle le « sans origine » ou encore « l'inengendré ». L'inengendré est un et unique puisqu'il est à l'origine de tout. Tout provient de Dieu, mais Dieu lui-même ne provient de rien. Arius tient donc sa définition chimiquement pure de Dieu. Mais il y a tout de même un petit problème. Dieu est le sans origine, mais le Christ, lui, a une origine. Il est venu de Dieu, nous dit saint Jean, et lui-même dit aux Juifs, « C'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. » Jean chapitre 8, verset 42. Alors, qu'en est-il du Christ ? « Qu'à cela ne tienne, répond Arius. Le Christ, Verbe de Dieu, n'est pas Dieu. Il a été créé dans le temps, et il y a donc eu un temps où il n'existait pas encore. » Arius prêche cette étrange théologie à ses paroissiens, et ces derniers finissent par s'en émouvoir. Le peuple de Dieu, nous rappelle sans cesse le pape François, possède un sens de la foi qui le fait réagir quand on lui prêche autre chose que ce qu'il croit. L'affaire remonte donc jusqu'à Alexandre, l'évêque d'Alexandrie à l'époque, et celui-ci, après avoir invité Arius à deux débats publics devant son clergé, finit par lui demander de rejeter son opinion et d'enseigner la divinité du Fils de Dieu. Mais Arius, arc-bouté à sa trouvaille, ne veut rien entendre et il riposte en accusant Alexandre de faire le jeu des modalistes. Et dès ce moment, l'arianisme est né. Il se répand à grande vitesse car Arius a beaucoup de relations un peu partout en Orient. Il est lié à plusieurs évêques, en particulier Eusèbe de Nicomédie, celui-là même qui baptisera plus tard Constantin sur son lit de mort. Arius se réfugie chez lui, le conflit s'enflamme entre les deux évêques Alexandre d'Alexandrie et Eusèbe de Nicomédie. Devant l'importance de l'enjeu pour la foi, Alexandre réagit en 320 en réunissant les évêques d'Égypte et de Libye qui condamnent Arius et sa doctrine. Mais du côté d'Eusèbe, on s'active aussi pour faire réhabiliter Arius en réunissant d'autres évêques. Et ce conflit, encore purement oriental, finit par s'amplifier à un point tel qu'il arrive à la connaissance de l'empereur. Fureur de Constantin, lui qui songe de plus en plus à asseoir son pouvoir impérial sur la jeune Église chrétienne, voilà qu'il la voit en train de se déchirer. Comment faire pour rétablir l'ordre ? La meilleure solution, se dit-il, c'est de convoquer tous les évêques et de les sommer de se mettre d'accord. La résidence d'été de Constantin sur le Bosphore est justement disponible. On va donc y faire venir tous les évêques qu'on pourra rassembler, en mobilisant même les postes impériaux chargés de les transporter. Et voilà l'enchaînement des événements qui sont à l'origine du Concile de Nicée.